Encore un nouveau hors-série de Radio Rollist. Cette fois, je suis dans la convention Eclipse à Rennes et je reçois aujourd'hui Romaric.
Hello.
Bonjour.
Ça va, Cobal, la forme ?
Oui, ça va bien, et toi ?
Ouais, impeccable, impeccable dans cette convention qui, pour l'instant, ne compte pas beaucoup de personnes, et heureusement, sinon on ne pourrait pas enregistrer.
Exactement.
Mais non, mais ça va bien.
Et donc, Romaric, tu es ici pour Sens ?
Oui, entre autres.
Sens Renaissance.
Ouais, entre
et,
autres.
Et Sens Mort, donc.
Sens
qui
Mort
est le...
et Sens Renaissance, ouais, qui sont les deux sorties pour l'instant.
Le deuxième volume de cette hexalogie.
Logiquement, il aurait dû, on aurait dû y avoir un écran en plus à présenter, mais ah. Il n'a pas été prêt à temps. Parce qu'en fait, on voulait faire un écran avec mon illustrateur depuis longtemps.
Oui.
Et on s'est dit, on a vu l'écran en fait arriver, puis on s'est dit, oh là là, ça fait un peu nu en fait l'écran tout seul. Donc du coup, je suis en train d'écrire un supplément en plus, qui n'était pas prévu.
D'accord.
Donc du coup, on va avoir du retard.
et ce sera quel format cet écran ?
Il sera pareil, il sera en A5. Donc ce sera 4 volets A5. Parce que moi, je ne veux pas d'écran qui soit trop grand, où on ne puisse
oui,
pas voir les joueurs.
Parce que sinon, on ne voit pas les joueurs, effectivement.
Voilà, donc je voulais un petit écran, juste histoire de cacher 2-3 marqueurs éventuellement qui pourraient être utiles pour la suite, et puis des plans, des petites cartes, des trucs comme ça.
Et étant donné que dans ce jeu, il n'y a pas de dés à lancer...
Oui, non, c'est un goodies. C'est un goodies. C'est histoire de c'est une manière aussi de nous soutenir, parce que par rapport à cet écran... Valérie Notavong, mon illustrateur, recevra un petit peu plus au niveau des marges.
Mmh.
Donc c'est une manière de le soutenir aussi, lui. C'est plus une manière de nous soutenir. Mais le supplément sera quand même conséquent. Centaine de pages à peu près. Donc.
Ah, une centaine de pages.
Ah, ouais, quand même.
Ah oui, quand même. Oui.
C'est un vrai truc. Hein. On est vraiment en train de préparer un vrai truc.
Et le contenu viendra s'intercaler entre quel volume
Eh bien, en fait, il n'y aura pas de scénario dedans. Donc c'est juste de l'explication de l'univers. C'est encore de l'explication de l'univers, parce que c'est
d'accord.
Ce qui manque en fait généralement aux maîtres de jeu qui veulent maîtriser Sens. Ils disent souvent on voit bien les règles, mais on comprend pas on voit bien le système, mais on comprend pas encore tout à fait l'univers. Il manque encore des choses.
Je suis relativement d'accord.
Donc,
alors
ça...
j'ai des milliers de questions à te poser.
Tu vas déjà en poser une, et puis on verra pour les milliers après.
Voilà. Alors je vais te dire un petit peu comment j'ai découvert ce jeu. Donc il me semble que c'est l'année passée à la convention Orchidée à Lausanne. Avec nos amis de Silent Drift avaient quelques exemplaires de Sens à disposition. J'en ai donc pris un. Étant donné que je soutiens fermement tous les jeux indépendants qui sortent, j'en achète toujours au moins un.
Tous les jeux francophones indépendants,
il
n'y en a pas des masses, hein, à part la boîte à eux maintenant qui commence à éditer des choses, des traductions.
Ah, souviens-toi, il y avait le jeu H2O, je crois, qui s'était sorti il y a un paquet de temps
moi,
déjà.
Moi, je fais la distinction, contrairement à Christophe, moi j'ai tendance à faire un peu la distinction entre amateur et indépendant. Je ne sais pas, H2O, c'est amateur, indépendant. Non, c'est vraiment indépendant.
C'était un indé, ils vendaient ça en PDF sur le net.
D'accord, je connais pas du tout.
C'était sorti avant que ce soit vraiment la mode en fait.
Ah d'accord, ouais, ok.
Et donc il a eu moins de retentissement, je pense, que ce qu'il aurait dû avoir.
Ouais. Ah bah tiens, bah oui, tu m'enverras le lien, j'irai voir carrément.
Ouais, d'accord, je t'enverrai ça.
Du coup.
J'ai découvert ce jeu à cette époque et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Qu'est-ce que c'est que cet ovni ? Ça ressemble plus à un roman qu'à un jeu.
Ouais.
Donc j'ai fait comme d'habitude lorsque j'achète un nouveau jeu de rôle, c'est-à-dire que je le feuillette.
Ouais.
C'est-à-dire en général, je me dis, voyons voir c'est quoi un petit peu les règles. Après, je vais aller zoner un petit peu dans le background pour voir de quoi ça parle.
D'accord.
Et puis, tiens, comment se déroule la création de personnages.
Là...
autant dire que j'en ai été pour mes frais lorsque j'ai ouvert ce livre, car je n'ai strictement rien compris.
Alors, tu parles de quand tu l'as feuilleté ou quand tu l'as lu ?
Alors, quand je l'ai feuilleté. Quand je l'ai feuilleté.
D'accord, mais quand tu l'as lu, t'as compris.
Alors, attends. j'y viens.
D'accord. tu me fais peur. Là. Là, attends.
C'est une expérience plutôt déstabilisante par rapport au commun du jeu de rôle.
Ouais.
Et en fait, donc je l'ai laissé de côté parce que je me suis dit je comprends rien, on verra plus tard, voilà.
C'est bon.
Puis,
ça.
c'est excellent.
Puis je suis tombé par hasard sur ton podcast, ne sachant pas qu'il existait.
D'accord.
C'est pour ça que j'ai lancé celui-ci, sinon je t'aurais laissé faire. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ton podcast avec les hors-séries que j'ai adoré. Je trouvais ça vraiment super intéressant. Ça allait beaucoup plus loin que la...
Notre objectif avec le podcast de la cellule pour les hors-séries, c'était de faire en fait des discussions qu'on peut avoir entre rôlistes à partir de 3-4 heures du matin à peu près, mais en plein milieu de l'après-midi. Puis, sauf que ça a complètement raté, finalement, on les enregistre le soir. Mais en gros, l'idée, c'était ça. C'était les discussions qui viennent après les scénars et qui sont souvent passionnantes, en fait, qui mélangent plein de choses, que ce soit des discussions sur les sciences, sur parfois, oui, même la philosophie, quelques questions sur qu'est-ce que ça veut dire bien jouer un personnage, que ça veut dire bien jouer un jeu, qu'est-ce que c'est qu'un bon jeu, des tas de questions comme ça. On a voulu faire un podcast, en tout cas pour les hors-séries, qui soit de cet ordre-là, et puis bien sûr accueillir de temps en temps quelques invités qui viennent nous expliquer ou nous parler d'un projet, une maison d'édition, une fédération de jeux de rôle par exemple, comme ça a été le cas récemment, qui a fait couler beaucoup d'encre virtuelle.
Oui, voilà.
Mais, voilà
surtout dans un fanzine.
Ouais, voilà, c'était assez intéressant. Enfin, c'est assez intéressant, je trouve, d'entendre les rôlistes parler de vive voix.
Oui.
Et on s'aperçoit, en fait, souvent, bien loin des images que nous montrent parfois les médias généralistes,
c'est du domaine de l'évidence, a priori.
Écoutez les rôlistes, écoutons-les parler, et quand on les écoute, on s'aperçoit qu'il y en a. Il y en a sous la caboche, et ça, c'est très intéressant. Donc voilà, non, le podcast de la cellule... Mais bon, à la base, ça restait quand même un podcast communautaire sur les problématiques de sens. Et puis, de fil en aiguille, on a commencé à faire de plus en plus de hors-série, ouais, parce que ça a plu, en fait.
Oui, tout
Il y
à
avait
fait,
un vrai ouais. manque des rôlistes par rapport à ça.
Ouais.
Donc on en fait
et
un
surtout,
par mois.
Et surtout, un podcast qui s'attaque enfin aux théories.
Ouais, c'est
chose dont je suis particulièrement friand.
D'accord, c'est comme ça que tu as connu Silent Drift.
Voilà. Ouais. Enfin, non, je connaissais ouais. Silent Drift avant. Et quand j'ai vu qu'il y avait Christophe Buckley parmi tes invités, je me suis dit, ça doit être très intéressant.
Alors, Christophe, c'est vraiment une mine d'or pour tout ce qui est théorie, on va dire américaine ou anglo-saxonne.
Oui.
C'est un grand spécialiste
ou norvégienne.
Ou même norvégienne. Alors, on a eu moins l'occasion avec Christophe de discuter de tout ça. Parce que quand on parlait de Norvège, c'était plutôt pour parler de Turvinien, de zombie cinéma et tout ça, parce qu'on a
oui.
été traducteurs tous les deux sur le projet. Enfin, on a travaillé tous les deux sur ce projet-là.
Ah, moi, je suis en train de traduire Archipelago.
Ah d'accord. Donc voilà. Avec Christophe, on a surtout parlé de ça quand on parlait de Norvège. Mais ouais, non, c'est surtout un gros spécialiste. Pour moi, c'est surtout et avant tout un gros spécialiste de Ron Edwards. Les théories de la forge, il les connaît sur le bout des doigts.
Ouais, voilà.
Pissenbaker, Ron Edwards, tout ça, il connaît par cœur.
Et il a notamment fait une conférence sur le Big Model.
Exactement. Ouais.
Et dont le PowerPoint en gros est disponible. Et c'est super intéressant, je recommande vivement à nos auditeurs d'aller voir ça.
Moi je l'ai vu en live, copain, j'ai vu en live, en vrai. J'ai touché Christophe Buckley, je lui ai serré la main.
Oh, moi aussi. Je me suis pas lavé depuis.
Non mais c'était une super conférence, par contre je me souviens que les gens dans la salle, les yeux qu'ils faisaient, c'était très technique. Très compliqué.
Ah oui.
Je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout les théories de Ron Edwards, ça ne devait pas du tout être très éclairant. Par contre, ça a apporté un regard neuf, une révolution dans la manière de présenter les problèmes. Et ça, c'était bien.
Ouais, tout ça.
Ça, c'était vraiment le bon aspect de sa conférence. Par contre, côté pédagogie, c'était plus compliqué. Mais bon, c'est vrai qu'avec le recul, c'était une super conférence. Quoi. C'est clair.
Et alors, donc, pour revenir à ce que je disais initialement, je vous ai connu tout d'abord par les hors-séries.
Ouais.
Puis, quand même, je me suis dit, il faudrait un petit peu que je. Étant donné qu'ils racontent des choses très intéressantes dans les hors-séries, il faudrait quand même que j'écoute les podcasts sur sens.
Ouais, d'accord.
Donc, j'ai commencé d'en écouter, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et donc, je me suis plongé dans la lecture de Sens Renaissance.
Avec un regard nouveau, du coup.
Oui, avec un regard nouveau. Ouais. Et Alors, j'ai trouvé ça absolument passionnant.
La lecture ?
Oui.
D'accord.
Et par tous les thèmes qui sont abordés, la façon de faire qui est complètement ovni par rapport au...
Venu d'un autre monde.
Par rapport à 99% des jeux de rôle. Et alors j'ai plusieurs remarques.
Je t'écoute.
Alors. J'ai trouvé ça passionnant justement pour le côté pour la façon d'aborder le côté philosophique de la chose.
D'accord.
Donc moi, je ne suis pas un très grand spécialiste de la philosophie.
D'accord. Mais tant mieux.
Je ne te le cache pas.
C'est la cible.
Tu
es la cible.
À part Platon, Descartes, Hegel et un ou deux autres, c'est le programme de Terminal.
qui est suffisant pour pouvoir y jouer. Je pense que Sens, il faut d'abord le présenter comme un jeu de rôle de science-fiction ou de philo-fiction parfois,
oui.
Si on veut vraiment présenter. Mais dire que c'est un jeu de rôle de philosophie ou sur la philosophie, vraiment...
Non, c'est, en fait, c'est le
C'est un contexte.
La philosophie est un... Finalement, serait presque un aspect du système, quelque part.
Ouais, exactement. Ouais. C'est un...
Bien que ce soit pas vraiment formulé comme ça.
Non. Je vois ce que tu veux dire. Ouais.
Et oui, donc j'ai trouvé cet aspect très intéressant. Je trouve les illustrations absolument magnifiques. C'est très dommage que les illustrations intérieures ne soient pas en couleur. C'est vraiment
trop cher, Cobal. Je te dis comme je le pense, c'est trop cher. Si on veut faire imprimer ces jeux de rôle en France et pas en Chine, il faut que les illustrations soient en noir et blanc. On n'a pas le choix. Pour des petits tirages comme ça, on n'a pas le choix.
C'est des tirages de combien ?
Une centaine d'exemplaires à chaque fois.
D'accord.
J'en ai déjà écoulé deux.
D'accord.
Donc là, on est justement sur une réimpression en ce moment. À Eclipse, je présente la nouvelle impression.
En plus, c'est de l'impression numérique, je suppose.
Alors là, tu m'en demandes beaucoup. Hein. Moi, je demande à un imprimeur de me faire des bouquins. Il me les fait.
Parce qu'en fait, ce qui change entre l'impression numérique et l'impression classique,
c'est pas Gutenberg qui me fait mes trucs.
Le coût décroît lorsque tu passes par une impression standard. L'impression numérique, le coût est tout le temps le même.
D'accord, voilà, c'est ça. Alors non, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ce que je peux te dire, c'est qu'ils font pas de plaque du bouquin. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas Gutenberg, quoi. Ils font ça. Pour certaines illustrations, pour certaines maquettes, par exemple pour l'écran, on va faire ça. On va carrément fabriquer des plaques du truc. Enfin, pas des plaques, mais des...
Normalement, maintenant, ça se fait quasiment plus, ce genre de choses.
Oui, je sais bien. Mais apparemment, on n'a plus le choix ou je sais pas quoi. Enfin, j'ai pas tout compris des explications techniques. J'y comprends rien. L'imprimerie, franchement,
d'accord.
Le offset, la repro, tous ces trucs-là,
c'est de l'impression offset.
Et justement, je me disais qu'un petit podcast là-dessus, un de ces quatre... Enfin bref, ça serait pas mal. Sur l'impression.
Sur l'impression sur la fabrication, en fait.
Ouais, sur la fabrication. C'est un truc tout con, mais je pense que les rôlistes ont plein de questions à poser aux éditeurs à ce niveau-là. Où est-ce qu'ils trouvent leur cartonné, leur couverture cartonnée, leur A4 à pas cher. Alors, je sais qu'il y en a qui font ça en Chine. Moi, j'ai pris le parti de non, pas de Chine. Je veux rester, faire travailler l'économie locale.
Un jeu de philosophie fabriqué par des enfants, ce serait...
Oh. Ah, c'est encore plus...
Je salis tout, je sais.
En dehors de ça, moi, j'ai pris le parti de faire du jeu de rôle indépendant aussi pour l'aspect politique impliqué par le jeu de rôle indépendant. Et donc, je veux faire travailler l'économie locale, l'économie indépendante, elle aussi.
Et donc, tu fais imprimer ça dans le coin,
À Saint-Malo.
À Saint-Malo,
où j'habite.
Donc,
ouais,
tu habites. D'accord.
Par l'imprimeur du coin. Carrément, quoi. Donc voilà, je leur donne les PDF, les couves, et ils font tout.
Ils se débrouillent.
Et ils me les sortent. Et
d'accord.
Voilà. Nickel. Et ils éditent aussi, en plus. C'est ça qui est
alors,
bien.
Donc,
enfin,
j'en étais.
Les numéros ISBN.
J'en étais à la forme.
Oui.
Donc, je viens de parler des illustrations. Alors, j'ai été étonné un peu aussi d'avoir que le format soit finalement si petit. Eut égard au nombre de pages avec lequel on se retrouve au final.
D'accord.
Parce que la plupart du temps, dans un jeu de rôle, quand tu veux chercher une information, plus il y a de pages, moins il y a de pages, plus c'est facile de la retrouver.
Bien sûr. Et là, c'est l'inverse.
Et là, cela dit, étant donné que tout ce qui est système se retrouve grosso modo dans les annexes.
Oui, voilà. Donc.
Alors moi, j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement difficile de se retrouver dans le bouquin la première fois.
D'accord.
Parce qu'on se dit, mais où sont les choses ?
Ouais, d'accord.
J'ai mis un bon moment avant de comprendre que ce jeu était sans dé.
Excellent.
Parce que c'est indiqué nulle part. Il n'y a pas de dé. Parce que c'est vrai que signaler une absence, c'est pas forcément évident, mais vu que la plupart du temps dans les jeux de rôle il y a des dés.
C'est excellent comme remarque. J'avais pas pensé à ça, mais oui c'est vrai. En même temps, j'ai fait une bonne partie de la promotion du jeu. Les gens qui l'ont acheté savaient très bien ce qu'ils achetaient en général. J'ai fait toute la promotion du jeu en partie sur le fait qu'il soit sans dé. Donc du coup, je pense que les gens savaient avant d'acheter. Mais oui, c'est très intéressant. Mmh. C'est-à-dire que toi, tu m'as pas du tout rencontré. T'as acheté le livre par un intermédiaire.
Oui,
et là,
oui
du
tout
coup,
à fait.
C'est
oui.
une réflexion que je prends dans la tronche. D'accord, ok. Ouais. Bah là, en plus, c'est absolument, on peut pas corriger ça, quoi. Il y a pas un moment donné où on peut dire attention, ce jeu est un jeu sans dé. Ou alors si, peut-être mettre un bandeau sur le bouquin. Ils
ouais.
font ça.
Éventuellement,
parfois,
oui.
Tu mets un bandeau sur le bouquin avec écrit attention, ce jeu est déconseillé aux moins de 18 ans et se joue sans dé. Très bon ça. Très bon.
Alors,
très bien,
ah oui, autre chose, un autre élément que je souhaitais signaler et tu me le sers sur un plateau,
ah oui.
c'est que ce jeu n'est clairement pas destiné à tout le monde.
Non.
Je vois mal un pré-ado jouer avec ça.
Non, 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 on a dit. Bon, cela dit, j'ai vu des gens de 15 ans le maîtriser parfaitement.
Oui.
Donc, mais quand même. Bah,
c'est
quand
en
même.
Fait, c'est comme fait John Doe pour certains de leurs jeux, où il est clairement indiqué réservé à des joueurs matures.
Ouais, ouais, d'accord.
Il n'y a pas une notion d'âge, mais une notion
c'est
de maturité.
Vrai que, alors, moi, ce qu'on m'a souvent servi, c'est que c'était un jeu de rôle élitiste, donc c'était qui s'adressait à une certaine partie de la population rôliste. Bon. Pourquoi pas ? Enfin, moi, c'est pourquoi pas ? Enfin, si ça mm-hmm. veut dire que c'est pas à mettre entre toutes les mains et que il faut avoir un certain bagage, je sais pas, pour y jouer, pourquoi pas ? Par contre, je pense qu'un joueur débutant, même s'il est âgé, mettons un joueur débutant qui a plus de 18 ans, on va prendre un âge, c'est totalement arbitraire hein, l'âge, la maturité,
oui,
ça
oui,
n'a rien
oui.
à voir avec l'âge. Mm-hmm. Mais mettons, il est un joueur débutant qui a plus de 18 ans, il va le prendre en main très facilement. Et en tant que joueur, là, on peut descendre un petit peu plus bas. Mais bon, c'est vrai que à pas mettre en toutes les mains. Ouais. Mais non, je le confesse bien volontiers. Et c'est vrai que ça aurait dû peut-être être un peu plus clair dans l'édition du bouquin. Peut-être mettre un bandeau, comme on disait, ou quelque chose pour dire
ouais.
attention, ce jeu de rôle ne convient pas à tout le monde. Mais je pense que là, encore une fois, la communication sur le jeu a été bien faite à ce niveau-là. Si
ce
on
jeu
va
n'est
sur
pas
grog,
un jeu sur le cyclisme.
Voilà. Bah, si on va sur le grog, on regarde un petit peu de quoi ça cause, on va vite s'apercevoir que c'est pas un jeu.
Enfin, d'ailleurs, le grog n'a pas eu trop de mal à le classifier en jeu de rôle. Hein. Parce que je
non.
sais que la situation s'est produite il n'y a pas très très
c'est
longtemps.
C'est une catastrophe.
Un autre jeu.
Pour moi, c'est une catastrophe. Je connais bien en plus les gens qui font la classification au grog et qui s'occupent de ça. C'est des gens qui sont très courageux, qui font ça sur leur temps libre. Ce sont des vrais passionnés. Ce sont des gens vraiment que je respecte. Et je ne comprends pas pourquoi ces gens ne veulent pas classer les jeux de rôle, on va dire, indépendants, sans MJ et...
Ouais.
On va dire narratif, mais j'aime pas du tout cette expression, ce jeu de rôle narratif, ça veut rien dire. Et entendons-nous bien, tous les jeux de rôle sont narratifs.
Oui,
il y a pas un jeu de rôle.
Sauf Donjon 4, qui n'est plus un jeu de rôle d'ailleurs.
Je trouve que, voilà, et encore, dans Donjon, il y a quand même la création d'une histoire, même si elle est réduite à sa plus simple expression, mais il y a quand même la création d'une histoire. Donc tous les jeux sont narratifs, et on appelle assez bizarrement certains types de jeux de rôle des jeux de rôle narratifs. On veut dire peut-être narrativiste, mais même pas, parce que narrativiste, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, tous ces termes sont galvaudés, mais on voit bien qu'il y a un jeu de rôle qui est en train de naître en ce moment, qui n'est plus du jeu de rôle comme on le faisait dans les années 70, 80,
bien
90.
Sûr, bien sûr.
Et on n'arrive pas à lui trouver un nom qui convienne.
Bah, c'est-à-dire que si on reprend les termes du Big Model, c'est un jeu dont les propositions créatives sont plus orientées
voilà.
vers le narrativisme.
Pas forcément, pas nécessairement. Il y a par exemple Sens, c'est pas un jeu de, c'est un jeu de rôle qui, dont la proposition créative qui est encouragée par le système est plutôt simulationniste, justement. Prosopopée, le jeu de Frédéric Saintès, disponible en téléchargement sur Silent Drift, c'est un jeu qui est orienté également vers une proposition créative simulationniste, au sens où le système l'encourage. Maintenant, voilà, non, je crois pas. Je crois qu'il y a toute une nouvelle scène du jeu de rôle qui est en train de se monter et on n'a pas de nom en fait pour elle. On l'appelle tantôt jeu narratif, mais ça veut rien dire. Encore une fois, tous les jeux sont narratifs. On l'appelle parfois jeu de plateau. Il y en a qui vont jusque là, c'est-à-dire par exemple des trucs comme Zombie Cinéma où t'as une petite carte au milieu.
J'y ai joué. Absolument pas un jeu de plateau.
C'est absolument pas un jeu de plateau. On est d'accord. Mais voilà, on sait pas comment classer ces jeux-là. Et moi, je trouve justement que le grog, plutôt que de refuser ces jeux, devrait se poser la question comment on les classe, ouvrir un débat en fait rôliste sur la question. Comment on va les appeler, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle tendance et s'ouvrir en fait. Le vrai argument, le vrai problème, c'est que les gens du grog sont des bénévoles, sont des bénévoles qui manquent de temps, ce sont des vrais passionnés, mais ils manquent de temps, et donc il y a certains jeux, ils ont pas le temps de se pencher sur la question en fait. Et donc du coup, ils préfèrent refuser en disant mais les gars, on n'en peut plus quoi, on n'en peut plus du jeu de rôle. Alors qu'est-ce qu'on va devoir accepter comme étant un jeu de rôle, qu'est-ce qu'on va devoir refuser comme étant un jeu de rôle? Si on commence à accepter vos jeux bizarres là, on risque de se retrouver avec tous les jeux de plateau comme catégorisés jeux de rôle. Dixit va arriver, on va devoir dire que c'est un jeu de rôle, enfin on va plus savoir. Et donc du coup ils ont peur de ça, donc il se ferme.
Je pense,
hein. Mais c'est, à côté de ça, encore une fois, je respecte ces gens, ils sont très courageux, etc. Et là il manque
de temps. Je pense pas que ce soit une peur, c'est juste une méconnaissance de ce type de jeu.
Je sais pas si c'est une méconnaissance de ce type de jeu. Moi, je fais confiance à des gens comme Hervé lorsqu'ils disent qu'ils ont testé ces jeux, qu'ils les connaissent. Je pense que ce sont des gens qui ont testé ces jeux-là, mais qui se disent, mais si on commence à accepter ça, on fait rentrer le loup dans la bergerie et on va plus savoir en fait quoi classer en jeu de rôle et quoi ne plus classer. Et je pense que c'est vraiment ça le problème.
Tiens, ça me fait penser, lorsque j'avais écouté votre hors-série sur la FFJDR, il y a un truc qui m'avait pas mal choqué, c'était leur définition du jeu de rôle hyper strict et tout. Et quand j'ai écouté ça, je me suis dit mince alors qu'on vient à peine de trouver un modèle théorique qui nous permette de voir quelles sont les zones que nous n'avons absolument pas explorées dans le jeu de rôle, et soudain on nous dit ah ben non, c'en est plus
soudain. Bon, moi je me suis bien gardé de répondre à la polémique qui a suivi l'enregistrement de ce podcast. Pourquoi? Parce que Thomas Laboret a une définition qui est très très stricte du jeu de rôle et qui nécessite d'être vraiment analysée en détail. Moi, j'ai pas le temps de le faire. J'ai pas le temps de faire cette analyse en détail. J'ai envoyé ce podcast à des amis qui, eux, ont le temps. Ils ne l'ont pas encore fait. Ou alors, s'ils l'ont fait, ils ont posté un truc sur leur blog de manière isolée. Moi, je pense que Frédéric Saintès est probablement un des théoriciens qui est le plus apte à répondre à Thomas Laboret. Mais le problème, c'est que c'est quelqu'un aussi qui a ses propres projets. Et on n'a pas le temps, en fait, de répondre. Est-ce que ça nécessite aussi de répondre? Il faudrait vraiment voir la définition qu'il donne du jeu de rôle pour bien lui répondre. Or moi, j'ai pas le temps de faire ça, et ça nécessite de l'analyser en détail, parce que Thomas Laboret, c'est aussi quelqu'un qui, dès qu'il parle, de toute façon, il dit un truc, tout le monde réagit de manière excessive et agressive. Je sais pas pourquoi, ça vient probablement de sa manière de communiquer en fait. Mais il faut aussi écouter
ce que je trouve intéressant dans sa façon de faire, c'est que au moins ça fait réagir.
Ah oui, non, mais ça c'est clair. Mais de toute façon, c'est le but. Il est là pour bousculer.
Moi, j'avais pas entendu parler de la FFJDR depuis au moins 5 ou 6 ans.
Ouais. Ah, il y avait déjà eu des scandales sur Mystery Machine juste avant, où il avait dit souviens-toi, le fameux les rôlistes sont tous des cons.
Oui, bien sûr, mais c'était suite au passage de Thomas Laboret dans Rôlistes TV. Et s'il n'était pas intervenu, en fait, ce serait resté plan-plan et on n'aurait rien eu.
Ouais, c'est possible. Mais de toute façon, le gros problème en fait de la FFJDR, c'est que c'est une association comme les autres qui s'appelle Fédération et qui est en troisième position sur Google quand on tape jeu de rôle.
Et oui.
C'est ça son problème. Alors que Thomas, en fait, lui, a une volonté qui est très simple. Il veut créer un pont entre le jeu de rôle, le jeu de rôle et pas les rôlistes, ça c'est très important, le jeu de rôle et les institutions publiques.
Ouais.
Point barre. Mmh. Point barre. Mmh. Et après, il a ses propres définitions. Il a imaginé.net, qui est son domaine gardé, sa chasse gardée, etc. Mmh. Où là, il a ses propres idées, ses propres définitions auxquelles il faut répondre. Il faut discuter avec Thomas. Mmh. Et voilà. Et il faut bien. En fait, le problème, moi, je pense, le vrai problème de Thomas, c'est qu'il a du mal, et c'est normal parce qu'il est entier. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un de profondément complet. Il a du mal à distinguer ce qui est de ses propres propositions
et de ce qui est de sa fédération.
Propre, voilà, de sa volonté de d'être le pont, le passage entre les deux. Mais c'est normal. Je veux dire, c'est un être humain comme tout le monde. Il a ses idées. Moi, je vais quand j'interroge, par exemple, John Doe, je fais aussi ressortir mes propres idées d'auteur indépendant. Quand j'interroge un tel, c'est normal.
Oui, oui, bien sûr. On voit totalement ça par le prisme de nos propres opinions.
Mais je me garde bien de répondre à cette polémique sur la FFJD. Ah. Vraiment, parce que j'ai beaucoup de respect et de sympathie pour Thomas. Je sais que c'est quelqu'un qui est très courageux, qui donne du temps, un peu comme le Grog, qui donne énormément de temps au jeu de rôle. Il a des actions qui sont positif, vraiment une superbe idée, et puis il a des ratés et il fait des erreurs, sauf que quand Thomas le fait, puisqu'il est en troisième position sur Google, tout de suite ça prend des proportions, voilà, c'est ça le truc, quoi. Mais bon,
et oui.
Ouais. Mais bon, non, mais moi je pense que c'est un théoricien, il a ses idées avec Lucien, donc imaginez.net, là, c'est un think tank, et ils ont le think et le tank, hein, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc,
okay,
voilà,
très jolie définition.
donc voilà, quoi. Mais ouais, c'était un gros podcast, ça. Ouais.
Très intéressant. Alors. On est parti extrêmement loin.
Bah oui, mais on peut. Enfin, ouais, c'est.
Retournons dans le livre.
Oui, le livre.
Aussi, un reproche que j'aurais à faire à ce jeu. J'ai lu un peu les scénarios.
Ouais.
Et en fait, je trouve ça d'une linéarité assez.
Alors là, je ne m'en cache pas. Ce ne sont pas des scénarios. Et d'ailleurs, Lionel Jeannerat, là-dessus, sur Silent Drift, a été très clair. Il trouve que ce ne sont pas des scénarios. Et je suis assez d'accord. Moi, je parle plutôt, je suis plus prompt à parler de nouvelles dont il faut s'inspirer pour créer ses propres scénarios. Et je suis d'accord que c'est un aspect raté dans le sens Renaissance. C'est-à-dire que j'aurais dû écrire des nouvelles, en fait, au lieu d'écrire des scénars. Je ne sais pas écrire de scénar, Cobal. Je ne peux pas te le dire autrement, je ne sais pas écrire des scénarios. J'en ai jamais été capable. Je sais regarder des films et créer un scénario en rapport avec ce film qui ressemble à ce film, mais je ne sais pas écrire de scénario. Je n'y arrive pas. Et j'en ai lu plein en plus.
Et alors, c'est d'autant plus dommage que le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup de mal à saisir l'univers lui-même.
Ah, d'accord. Ouais. Ouais, c'est vrai.
C'est. En fait, le maître du vrai gros background, c'est par thème ou par classifié de façon à ce qu'on puisse s'y retrouver et savoir qui fait quoi, qui habite où, dans quel contexte, quels sont les habitants de telle zone, qu'ils font.
C'est un jeu sans ce qui laisse. Il y a eu beaucoup, mais toutes les critiques de sens ont toujours dit gros travail pour le MJ en perspective.
Ah oui, mais là, il faut qu'il écrive le jeu, en fait.
Celle de Julien. celle de Julien Pirou sur No Life, de Vincent sur Sci-Fi Universe. Ouais. Toutes les critiques de ce jeu ont toujours dit gros travail pour le maître de jeu. Toutes. Et je suis d'accord. De là à écrire le jeu, non. C'est-à-dire que t'as une énorme base quand même à planter. Toutes les cités sont décrites.
Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à.
Il y a quand même des descriptions qui sont faites. Maintenant. Improviser des noms de PNJ et des choses comme ça, improviser des scènes, des lieux, peut-être. Mais quel jeu de rôle ne laisse pas une part à l'improvisation ?
Oui, évidemment.
De jeux de rôle classiques.
Alors, les jeux de rôle classiques, pour moi, sont plus. Il est plus simple de créer du neuf à partir du moment où on a une base suffisante, stable, ou en tout cas qu'on a réussi à saisir. Où on a saisi l'esprit de l'univers et sa cohérence interne. Et ça, moi, j'ai eu beaucoup de mal à la trouver et à voir comment ça s'articulait.
D'accord, ok. Moi, je pense que Sens, c'est aussi un univers que vont énormément construire les personnages des joueurs par ne serait-ce qu'un truc, c'est que comme leurs personnages ne sont définis qu'en fonction d'un historique, si tu commences à écrire ton jeu en imposant des choses claires, genre des noms de bars, de bistrots, des noms de journaux, des noms de trucs, tu vois, des détails techniques et sociologiques sur l'univers, si tu commences à trop en dire, tu vas limiter la créativité des joueurs au moment de la création du personnage. Par exemple, le nombre de joueurs, moi, qui m'ont fait du genre « Ouais, bah, je travaille dans un journal et puis j'invente son nom, j'invente les gens qui y travaillent, etc. »
D'accord.
Le but aussi, c'est de faire la part belle aux joueurs. Si, c'est, si ces scénarios nouvelles, plutôt, ne sont que des squelettes, c'est aussi pour laisser les joueurs en constituer la chair au, cours, au fur et à mesure de la partie.
D'accord.
Mais ce n'est pas une réponse. C'est pas une réponse, je suis d'accord avec toi, il y a un gros problème à ce niveau-là dans le jeu. Et c'est les podcasts de la cellule sont une réponse à ce problème.
D'accord.
Tu et donc, c'est vraiment. Je suis d'accord.
Je vous incite vivement à aller écouter nos concurrents directs. Aller écouter les podcasts de la cellule qui franchement, sont vraiment très, très bons. Moi, j'y prends vraiment beaucoup de plaisir.
On n'est pas concurrents, on est complémentaires. Parce que toi, tu fais pas mal d'interviews de gens que moi, je n'ai jamais rencontrés. Tu fais aussi pas mal de choses. J'ai vu dans les menus des choses sur les jeux de rôle aussi, du commerce des jeux de rôle classiques, des explications, etc.
Nous sommes beaucoup plus mainstream.
Plus au cœur de l'actualité que nous, en fait. Nous, on fait des débats de fond de tiroir, quoi. Les débats de 3h du matin. Toi aussi, j'imagine que tu seras amené à en faire. Ça a l'air de te plaire.
Oui, mais, évidemment. Voilà, mais je prépare...
Soyons complémentaires.
Je prépare un hors-série sur le Big Model et les jeux indés.
Bien, très bien. J'espère que Christophe sera invité.
Et alors, justement, je dois l'avoir, je dois l'avoir avec moi pour faire ça. C'est en train de se monter.
Ça va être cool.
Il faut qu'il trouve du temps pour pouvoir.
Oui,
t'en
fais pas, il en trouvera. Il en trouvera.
Mais non, c'est prévu.
De toute façon, les podcasts ne sont pas en concurrence puisque les gens les téléchargent et les écoutent quand ils veulent.
Oui, bien sûr.
Ils auront le temps.
Sûr,
hein.
c'est...
Donc voilà.
Moi, plus il y en a, plus je suis content. Ben je suis un gros consommateur de ça.
Voilà.
Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Ah oui, encore un autre truc.
Par rapport au livre ?
Ouais, par rapport au livre. Et là, il y a vraiment débat. C'est l'implication du joueur dans la fiction.
D'accord. Alors, gros dossier là.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses déjà ?
Alors, j'ai écouté le podcast de la cellule qui parle de ce fameux scénario. Dans lequel les personnages découvrent un espèce de labo, quelque chose comme ça, dans lequel il y a des cuves où ils se voient, eux, les joueurs.
Voilà, exactement. Ils savent que, en tout cas, les joueurs sont dans la fiction, ont une place dans la fiction du jeu.
Également, dans la création de personnages,
la présence du joueur sur la fiche de personnage directement.
Des éléments qui correspondent à la vie du joueur qui sont sur la feuille de perso. Alors c'est difficile à dire ce que ça me fait vraiment, mais moi ça me fout un peu la trouille en fait ce type de truc.
j'aime pas
qu'un jeu vienne chercher des trucs dans ma psyché.
D'accord. C'est un jeu qui plaît énormément aux informaticiens, aux mathématiciens, aux psychologues et aux philosophes. Et dedans, j'ai dit psychologue. Et voilà, parce qu'il y a cet aspect, effectivement, la réalité, la fiction. Bon, écoute, moi je pense que quand tu fais un jeu, regarde. Prends par exemple un film qui défraye la chronique en ce moment parce qu'il est génial, Le Discours d'un roi. D'accord. Tu prends ce film-là, c'est un film extraordinaire. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, les auditeurs, là, il faut y aller direct.
J'ai vu que la bande-annonce, ça avait l'air plutôt pas mal.
C'est un film énorme. Mais à travers le message qui est passé, à travers cette fiction, il y a aussi de grands messages pour la réalité. C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire ? C'est la fiction, pour moi, en tant qu'auteur, doit toujours être l'occasion de parler de quelque chose de réel.
Certes, mais
je trouve, sinon je trouve qu'on perd l'intérêt. Si c'est pour vivre des choses dans la fiction sans poser de problématiques existentielles, alors mais tu vas me dire, on peut le faire sans pour autant impliquer à ce point-là les joueurs.
Tout à fait.
Je voulais aller plus loin. Je voulais que le côté justement, on fait un jeu de rôle, soit assumé. Pourquoi ? Parce que ça me permettait de porter certaines idées métaphysiques supplémentaires. Le fait que le joueur soit impliqué dans la fiction, ça me permet aussi de mettre, entre guillemets, dans la fiction un deuxième niveau d'analyse qui me permet de prendre du recul sur la réalité et d'analyser philosophiquement cette dernière, si tu veux.
D'accord.
C'est complexe, mais ça a une place. C'est très important, très très important. Maintenant, toutes les histoires de c'est dangereux parce que le joueur va se sentir trop impliqué. Non, ça c'est à exclure. Oui, s'il le souhaite, comme disait Benjamin Béliès dans le podcast de la CLU qui est consacré à ce thème. S'il le souhaite, il va pouvoir aller trop loin, bien sûr. Mais c'est s'il le souhaite, lui.
Oui, parce que en fait, en regardant en fait, on établit une liste de faits
oui.
qui correspondent aux joueurs.
Voilà.
Mais ça peut être des choses complètement banales.
Oui, ça peut être
ça peut
des
être,
choses
j'aime
banales.
J'aime les pattes. J'ai un chien.
Oui.
Je joue du piano.
Exactement. Parmi les faits qui te constituent, toi, Cobal, en tant qu'individu, il y a probablement ces faits, comme tu dis. Qui sont triviaux et ils font probablement partie de ta personnalité et c'est important. Tout est important.
Alors il y a pas que du mauvais dans le sens où
alors qu'est-ce qui te fout les boules
alors,
dans le fait
c'est
de...
alors
c'est ça, en fait.
Mais c'est vraiment quelque chose d'intime pour le
de
coup
personnel.
Et j'ai du mal à mettre le doigt dessus. Ça m'effraie pas dans le sens où j'ai peur de devenir fou et de tuer des gens en criant je suis le seigneur des ténèbres.
Bien sûr.
Je m'auto-psychanalyse. Je pense que j'ai une légère peur de mes réactions à moi.
D'accord.
Si ce sont des thèmes ou des trucs qui me touchent de trop près.
De trop près, ouais. Bah justement, dans ce sens, on explore aussi cette dimension-là. Sens, c'est un jeu qui cherche à plonger, à immerger. Vraiment, c'est ça qui compte. C'est plonger les joueurs dans une ambiance. Et une ambiance qui peut être inquiétante. Parce que quand on commence à trifouiller, en fait, dans ce qui fait le cœur de ta personnalité, on y trouve forcément des choses sombres, des choses noires. Et c'est celle-là que le jeu essaye de faire ressortir. Ces choses sombres, mais pas uniquement. Les choses positives aussi. C'est de faire justement la part des choses et d'apprendre à mieux se connaître à travers une fiction. Moi, je crois qu'il y a un excellent... Il y a un article sur les entretiens d'embauche. En ce moment, j'ai plus ça parce que je me retrouve au chômage. Et il y a un excellent article sur les entretiens d'embauche qui dit « Bien réaliser un entretien et faire un bon entretien pour trouver un emploi, c'est avant tout apprendre à bien se connaître. » Et moi, je voulais créer un jeu de rôle aussi qui permette d'avoir un retour de la fiction vers soi-même pour apprendre à se connaître. Tu vois ce que je veux dire ?
D'accord.
Mais je ne suis pas psychologue. D'ailleurs, j'aime pas trop la psychologie, pour être tout à fait honnête. Je trouve ça bizarre, on va dire, hein, pour pas dire autre chose. La psychanalyse, je trouve que c'est carrément du bidon et je trouve que c'est carrément de l'arnaque. Pour certains, pas pour tous. Il y a des psychanalystes qui sont très très forts et qui valent le coup, mais je trouve qu'il y a un pan de la psychanalyse qui est complètement de l'arnaque. Bref, la psychologie, ça a toujours été étrange pour moi. Je ne suis pas psychologue et ça ne m'intéresse pas. Pas d'explorer ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver dans la personnalité de chacun des raisons d'avoir peur de soi-même, de façon à bien plonger dans l'ambiance, quoi. Être bien dedans, quoi. L'idée de
D'accord.
se dire, l'enjeu, tu vois. L'idée de se dire, il y a un enjeu derrière ce scénario qui dépasse la simple fiction. C'est un petit peu l'idée, alors là, ça va être très excessif, d'accord ? Mais c'est un petit peu l'idée, si tu rates ce scénar ce soir, je crame ta voiture. C'est genre, tu vois, il y a comme un espèce d'enjeu. Il y a un enjeu de plus, tu te dis, oh là, faut pas que je rate. Et du coup, ça va te mettre dans l'ambiance. Alors là, forcément, le je crame la voiture, c'est une menace, bien sûr, fictive. C'est-à-dire t'as l'impression que ça peut se réaliser. Parce que à tout moment, tu te dis, mon MJ, il peut péter les plombs, quoi. Ça se trouve, il pète un câble, là. Alors que tout le monde sait que non. Mais tu vois, il y a l'idée, quand même, on sait jamais, quoi. Et donc, du coup, ça fout dans l'ambiance direct, quoi.
D'accord.
Ça fout les boules. T'as raison de dire que ça fout les boules. Et c'est ça, c'est ça qui est intéressant dans ce sens. Ça a été toujours borderline. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, dans le jeu.
Ouais.
C'est pour ça aussi qu'il est déconseillé au moins de 18 ans, on va dire. C'est-à-dire que ça fait partie du jeu de faire croire à qu'il y a cette possibilité de débordement. Elle est toujours là, mais elle n'existe pas. Enfin...
Pour revenir à ce que tu disais, cette méthode, cette façon de faire te sert en tant qu'auteur à faire émerger, comme tu disais, cette espèce de deuxième étage
voilà.
de la fusée.
Tout à fait.
Et donc, où la fiction se retourne, et en fait, c'est l'écran de cinéma qui regarde le spectateur.
Exactement.
Et où il se voit lui-même.
Voilà. Regardez, vous dites, vous proférez, vous avez des jugements vis-à-vis de ces personnages, vous les dites fictifs, vous les méprisez, vous n'hésitez pas à tuer un enfant dans la fiction.
Mm-hmm.
Et hop, d'un coup, on dit, mais regardez qui vous êtes, vous qui jouait à ce jeu, est-ce que vous êtes différent ? Et là, il y a le côté, bon, bah oui, on est différent parce qu'on est peut-être un petit peu plus moraux que les personnages qu'on joue.
Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement tant la moralité que la métaphysique. Et là, du point de vue métaphysique, est-ce qu'on n'est pas tous des gens qui jouent des rôles ? Est-ce que moi, je ne suis pas en train de jouer le rôle de l'auteur, tandis que toi, tu joues le rôle de, l'intervieweur ? Est-ce qu'il n'y a pas cette idée aussi qu'on... Qui est-on ? Qui est-on ? Quelle est notre identité ? Mmh. Les faits qu'on a mis sur notre fiche de personnage, combien est-ce qu'on peut en enlever avant de dire « ceci n'est plus Cobal » ? Tu vois, il y a toutes ces questions-là.
Oui,
quoi.
D'accord.
Tu as des tas de questions qui surgissent.
Il y a aussi... Il y a aussi quelque chose d'autre, enfin je pense, c'est il y a non seulement le côté qui suis-je, mais il y a aussi le côté qu'est-ce que la réalité ?
Qu'est-ce que la réalité ? Voilà, bien sûr. C'est-à-dire, est-ce que la réalité et la fiction qu'on est en train de créer n'ont pas un lien, n'ont pas un rapport ?
Il y a le côté Descartes, tout ça.
Surtout Wittgenstein. Mais bon, alors, oui, mais tout à fait. Tout à fait, il y a le côté Descartes, bien sûr. Ah oui, carrément même. Ah, l'idée, en fait...
Et en plus, là, pour le coup, ça se rapproche vraiment Descartes. C'est, il y a un dieu mauvais...
Exactement. Alors, Descartes, en fait, il y a deux choses, à mon avis, à dire à sujet de Descartes. Effectivement, il y a l'histoire du malin génie. C'est-à-dire que le dieu qui anime l'univers de sens est mauvais. Effectivement, c'est un malin génie. Encore qu'on verra dans la suite de l'histoire qu'il a des bons côtés. Et il y a le deuxième aspect, c'est « je suis dans mon corps comme un marin dans son navire ». C'est-à-dire, il y a le côté, les joueurs manipulent leurs personnages comme des marins dans leur navire.
D'accord.
Ce sont des simulacres, les personnages, on dit bien. Mmh. C'est-à-dire que le joueur est ce marin et le simulacre est un peu ce navire commandé par ce marin. Donc, il y a ce petit côté-là aussi. Mais j'ai envie de dire que Descartes, de toute façon, anime toute la pensée occidentale contemporaine, même encore aujourd'hui, on y répond. On répond à Descartes. On ne fait que répondre à Descartes. Le jeu de rôle, pour moi, c'est un rapport, il y a un lien avec la réalité. Pour moi, on vit dans un jeu de rôle. Il y a des penseurs là récemment qui ont sorti des articles en essayant d'expliquer que la réalité était un jeu vidéo. Moi, j'essaye de montrer que la réalité, c'est un jeu de rôle.
Voilà. Je te propose qu'on abandonne un petit peu les philosophes.
D'accord. Donc, on abandonne les philosophes et on retrouve nos auditeurs. C'est ça l'idée.
Ouais, voilà.
Ok, c'est... on y va.
Ah oui, une chose plus légère, plus légère maintenant. Ça m'a beaucoup amusé les armures en philonite.
Ouais.
Donc les personnages se font des armures de philosophie.
Alors en fait, ouais, la philonite, c'est une matière étrange qui est un des fils rouges du jeu en fait, un des fils rouges de l'univers qu'on va suivre tout au long de l'histoire, qui posera toujours des tas de problèmes et des tas de questions, des tas de contradictions. C'est une matière qui est pas censée exister mais qui est là et qui est pas là. C'est une matière qui défie toutes les lois logiques. Et c'est l'occasion surtout de créer des armures de la même manière que dans un jeu vidéo qui s'appelle Metroid. Je ne sais pas si tu connais Metroid.
Ouais,
Ben voilà, en fait, les armures de Philonite sont des armures comme dans Metroid, des espèces de scaphandres un peu grossiers, comme une espèce de combinaison de football américain un petit peu, mais version futuriste, quoi. Et qui permettent d'explorer l'espace, d'explorer les fonds sous-marins. Ça te permet d'aller dans n'importe quel lieu sans prendre de risques graves. Mais voilà, c'est pourquoi est-ce que ça t'a fait triper cet aspect d'armure ?
J'ai trouvé ça super marrant et très Chevalier du Zodiac, évidemment.
Ah mais oui, mais parce que on imagine tout de suite les armures à la Chevalier du Zodiac, mais ça c'est parce que t'as écouté le podcast de la cellule et qu'on n'arrête pas de chambrer avec les Chevaliers du Zodiac.
Mais j'y ai pensé aussi en lisant.
Mais il y a un côté très très saint-séiesque dans Sens. Même au niveau des combats, au niveau des bastons qui se passent avec des grands trucs philosophiques, tu vois, le côté un peu...
Avec des tirades contre le méchant avant d'aller se friter.
Exactement, il y a ce côté-là, il y a ce côté, cet héroïsme-là en fait, un héroïsme lyrique qui disparaît en fait. Qui disparaît quand on regarde aujourd'hui ce qui se fait dans les œuvres de fiction, les œuvres d'action. Généralement, les méchants ne disent rien. Et on retrouve peut-être un peu ça dans James Bond, le côté lyrique du combat, où souvent les méchants font des grandes tirades.
Ah, le méchant raconte tout son plan.
Pas forcément tout son plan, mais où il y a au moins des dialogues avec lui. Et aujourd'hui
Non, je suis pas d'accord du tout avec toi. Dans la plupart des mangas, c'est comme ça.
Voilà. C'est ce que j'allais dire.
Tu regardes,
sauf dans le manga. Oui, ouais, non, mais on est entièrement d'accord.
Je suis fan des Naruto,
voilà,
et comme ça.
Voilà, c'est l'endroit où on le retrouve.
Oh
voilà.
Mon Dieu, il est clairement en train de faire ça. Et l'autre qui dit, clairement. Ah, tu ignorais que.
J'en venais justement à ça. J'allais te le dire. C'est voilà, sauf dans le manga, et c'est à mon avis ce qui. C'est le lyrisme comme ça, tragique, des personnages qui se parlent en combattant. Regarde, dans Cyrano de Bergerac, ils se parlent en combattant.
Mm-hmm.
Cyrano, il déclame ses tirades en se battant à l'épée. Et voilà.
Et de cap et de croc.
Et c'est classe, de cap et de croc, ouais. J'ai jamais eu l'occasion de faire une partie de ça.
C'est une BD.
C'est une BD. Il n'y a pas de jeu de rôle de ça? De cap et de croc? Non, il n'y en a pas, t'as raison.
Il y a probablement un jeu amateur qui doit exister sur le sujet.
C'est sûr. Mais je me souviens. C'est pour ça que je croyais que c'était un jeu de rôle, parce que j'avais le souvenir d'une belle couverture avec des beaux renards. Et des...
Ouais,
c'était joli, c'était un bel univers visuel.
Ça mériterait de faire un bon système où t'es obligé d'écrire tes alexandrins pour avoir des bonus au combat.
Ouais,
c'est
assez
cool, je pense.
Mais bon, j'avais un copain qui avait un projet comme ça de faire un jeu de rôle ridicule. Tu sais, le film ridicule.
Ah,
où tu te combats en fait à un jeu de verbal. Allez, bon courage.
Mais
ça
le problème,
d'avoir des compétences de joueur.
Le problème, voilà, c'est bah tiens, du coup, on va retomber un petit peu sur Sens. C'est-à-dire que pour une fois, c'est un jeu où finalement les personnages, étant donné qu'ils acquièrent des capacités du joueur,
ouais.
la dichotomie entre ce que le personnage est censé savoir faire et ce que le joueur aura l'idée de lui faire faire, c'est là où la frontière est la plus faible.
La plus mince. Ouais.
Et donc, lorsque le joueur va attribuer des compétences à son personnage, il pourra réellement les jouer.
Mmh. Ah ouais, non, mais tout à fait. Hein. C'est, logiquement, c'est fait pour ça. Quoi. C'est fait pour qu'à aucun moment on sente qu'il y a un joueur qui joue un rôle. Il faut qu'on sente une espèce de continuité comme ça. Mmh. Pour l'immersion, encore une fois. Plonger dans l'univers. Ouais, non, c'est... De toute façon, dans ce sens, on est forcément amené à faire évoluer son personnage ou à créer un personnage qui, de près, de loin, nous ressemble ou nous parle ou évoque quelque chose pour nous. Le personnage n'est jamais totalement éloigné du joueur. Pourquoi ? Parce que c'est une longue campagne. Et que j'ai noté ça, c'est mon expérience de joueur, je n'ai toujours joué qu'en campagne. J'aime pas trop les one-shot. Je ne suis pas fan. Les jeux one-shot, j'aime pas trop ça. Je ne joue qu'à des jeux en campagne quasiment, sauf pour playtester des systèmes, etc. Rendre service à des copains, jouer des jeux indépendants complètement dingues. Là, je joue, mais je ne joue qu'en campagne. Mmh. Et j'ai remarqué ça, que souvent, dans une campagne, plus les scénars passent, et moins c'est le personnage qui prend les décisions, et plus c'est le joueur qui le fait.
Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi.
Et donc là-dessus, et moi c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que qu'aurais-je fait moi confronté à telle ou telle situation? Qu'est-ce que j'aurais fait si imaginons les nazis envahissent la France? Est-ce que j'aurais été un résistant ou est-ce que j'aurais été un collabo? Qu'est-ce que j'aurais fait? Et cette question-là, moi c'est dans le jeu de rôle, c'est celle que je trouve la plus intéressante à explorer. Et le drame, je trouve, du jeu de rôle francophone, français, on va dire, franco-français, c'est cette affaire avec Mireille Dumas qui a empêché les auteurs, à mon avis, d'aller plus loin, à ce niveau-là. Moi, j'ai envie de dire merde, tant pis, j'y vais, je vais dedans, quoi. Uh-huh. Dans le mur, uh-huh. Mais je rentre dans ces problématiques-là. C'est pour ça que la dichotomie entre la réalité et la fiction est mince. Mais en même temps, c'est ce qui m'intéresse d'explorer, donc... Je suis un auteur indépendant. Je vais pas m'empêcher de me faire plaisir pour des raisons éditoriales ou parce que les joueurs attendent tel ou tel jeu de rôle. J'ai envie de proposer mon truc. Maintenant, ça plaît à ceux que ça plaît, enfin à ceux à qui ça plaît, et puis ça plaît pas aux gens à qui ça plaît pas. Et puis voilà, c'est bien. Je respecte aussi les gens à qui ça ne plaît pas, quoi. C'est normal. Il en faut pour tous les goûts.
Tu aurais quelque chose à rajouter ?
Bah écoute, on a déjà bien fait le tour de la question. Moi, j'ai rien à rajouter, si ce n'est que je trouve très très intéressant la renaissance du jeu de rôle en ce moment. Je trouve qu'il y a une véritable renaissance du jeu de rôle. Alors je sais pas, les associations disent qu'ils voient pas trop de jeunes qui arrivent pour s'inscrire chez elles, donc ça c'est inquiétant, c'est à dire qu'il semble manquer de relève. Par contre, au niveau de la communication, il y a ton podcast, il y a Rollis TV, il y a le blog de la cellule, il y a des tas de choses qui sont en train de se monter, il y a des magazines qui renaissent, il y a des magazines qui se créent, le Grog n'a jamais été aussi actif, enfin ça fait vraiment plaisir de voir ce renouveau
niveau-là, et ça, c'est bien. C'est aussi pour ça, à mon avis, qu'on trouve des jeux de rôle de plein de variétés différentes. Mmh. Et c'est cool. Et c'est cool. Ouais. Ça, c'est vraiment un point positif. Moi, j'aime bien finir sur une note... ouais, vive le jeu de rôle. Et là, en ce moment, on a la chance de connaître une renaissance du jeu. Donc, cool. Vraiment cool. Merci à toi, Cobal.
Eh bien, merci beaucoup. C'était absolument passionnant. j'espère que, j'espère que ouais, nous n'aurons pas perdu tous les auditeurs, mais je pense qu'ils trouveront du grain à moudre là-dedans.
Ouais, j'aurais voulu être plus pédagogique, mais c'est pas toujours facile. À bientôt.
Allez, ciao.